Oui, monsieur.
Pour moi, c'est. Ce genre de livre nous refuse de lire. Comme devant une peinture moderne, une peinture, certaines peintures, certaines musiques modernes. Et puis ça dépasse les choses, tout ce théorique dans ce type.
Oui.
Par exemple, comment dirais-je, quant à pays imaginaire, je préfère de Julien Crac, plein d'imaginaire, plein de romantisme, plein de classisme authentique, plein d'esprit, c'est désert. Et puis, tout le temps, ça m'irrite.
Ah bon?
Oui. Et puis, pas de. Comment dirais-je? Imagination humble, ni rêve, trop dur. Aussi dur, très dur, aussi dur que à prononcer le nom de personnage.
Très bien, oui, une bonne comparaison. Hein.
Oui, c'est un peu difficile. Parce que peut-être que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la littérature moderne. Peut-être que c'est là qu'il y a un roman content.
Je pense pas, non. Je pense que ce que vous dites a une justification, c'est-à-dire le texte est dur, le sujet est dur, il n'y a pas beaucoup de descriptions de paysages, de situations dans un espace comme on a pu voir avec Grac dans le rivage des Sirtes ou avec le Clésio dans les îles de l'océan Indien, où le désespoir est à peu près équivalent à celui-ci, au moins pour la tragédie humaine dans ce sens. Pour le livre de Julien Grac, je suis plus partagé sur le désespoir. Je ne pense pas que ce soit un livre de désespoir, le rivage des Sirtes. C'est une sorte de mystère, mais plutôt de héros positifs.
Et finalement, qu'est-ce que lui, la Poulodine cherche dans ce film? Par exemple, vous nous avez préféré la deuxième classe, c'est le phénomène de crise du mois de mai 1968. Moi, par hasard, j'étais aussi à Paris à ce moment-là. Alors donc, j'ai dit quelque chose. Se trouve dans ce livre, mais jusqu'à la fin, c'est rien, rapport pour moi avec.
Oui, non, il s'agit pas de faire référence justement à tel ou tel événement. On peut trouver des allusions à 68, à certains éléments, mais si on pense à la France de cette époque, ce qui se trouve évoqué dans la notion de communauté, de résistant, mais tout à fait désespéré, ce n'est pas 68 qui est visé, indiqué, mais plutôt les années 71, 72, 73. Ce sont les années où les derniers militants de 68 ont formé des groupes politiques qui ont été de plus en plus isolés, marginalisés, poussés vers une certaine action extrême, que en France, au moins, ils n'ont pas véritablement déclenché. Donc il y a eu en effet des groupes qui ont pensé à faire du terrorisme contre l'État, considérant que l'État était tout à fait totalitaire comme cela, mais ils ne sont pas allés dans cette direction. Ils se sont arrêtés avant. En Allemagne ou en Italie, les mêmes genres de groupes sont allés jusqu'au terrorisme. Ils ont enlevé des personnalités, ils ont assassiné des gens au nom d'un idéal politique. Et lorsqu'ils ont été arrêtés par la police, ils ont été arrêtés comme des criminels qu'ils étaient devenus. Donc c'est un problème difficile. Donc ces années-là sont visées. Mais nous avons aussi beaucoup d'allusions à l'Allemagne des années 1930-1940 et principalement des années 1930, c'est-à-dire la montée du nazisme et comment le parti nazi a progressivement, conquis, ramassé une très grande partie de la population, de la jeunesse et de la population en général, pour en faire des militants, du nazisme. Ça ne veut pas dire que tous les Allemands étaient des nazis et que l'ensemble des Allemands a commis les crimes qui ont été ensuite ceux du régime nazi. Néanmoins, il y a certainement une forme de participation, d'acceptation par le silence. Et si on élargit alors cette façon de voir, il y a sans doute beaucoup d'autres pays où une dictature a imposé par la force, la terreur, la peur, imposé le silence à toute une population qui n'a pu se défendre ou se rétablir qu'après 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans. Hein, donc c'est pas la France de 68 ou 70 qui est visée, c'est une sorte d'amalgame, de mélange, de fusion entre beaucoup de conditions, entre beaucoup de situations de pays où il y a eu une dictature, un régime totalitaire, et c'est une sorte de résumé finalement. Hein. Alors en tant que résumé de totalitarisme, concentré de totalitarisme, le livre Alto Solo devient une véritable utopie. Utopie au sens où il n'y a pas de lieu véritablement comme celui-ci, mais un certain nombre de lieux qui ont pu avoir une petite ou une moyenne ressemblance avec ce lieu. Alors, ce type d'utopie existe déjà dans la littérature depuis longtemps, et en réfléchissant à cette notion, donc pas réaliste, mais qui nous fait penser plutôt au conte, le conte, finalement ça m'a fait penser au conte à la façon de Voltaire, donc le conte philosophique ou le conte satirique. Alors Voltaire, vous connaissez sans doute Candide ou Zadig, par exemple. Et dans ce cas de conte, ou dans le conte en général, en effet, il n'y a pas beaucoup de situations, de paysages, de constructions de monde social, plus ou moins vrai ou faux, mais on va directement aux événements. On pose rapidement des personnages, un peu comme des caricatures, des croquis, et les événements s'enchaînent pour produire un sens philosophique ou satirique. Si vous pensez à Candide, il est presque impossible de voir un paysage dans le conte de Candide. Bien sûr, il y a eu des illustrations que vous avez vues dans des livres, mais qui sont le travail d'artistes qui ont essayé d'imaginer comment pouvait être ce royaume ou différents autres paysages. Et puis, il y a d'autres de contes philosophiques un peu du même genre. Et puis, pour aller un peu dans le sens de monsieur, parce que il s'exprime très franchement, et je vous remercie, parfois on hésite à dire que c'était dur, qu'on n'a pas aimé, ou bon. Mais c'est bien de le dire. Et je crois que le but de Volodin, c'est de nous terroriser. Et il ne s'agit pas de nous amuser ou de nous distraire en lisant un roman agréable, ni de nous édifier en nous instruisant de la vie de telle ou telle personne ou région, mais véritablement de nous faire peur. De nous faire peur en nous montrant comment ça pourrait se passer si notre pays, n'importe lequel, hein, donc, devenait comme ceci. Par conséquent, il n'y a pas de raison de produire des choses agréables pour le lecteur. Et votre réaction me paraît tout à fait saine. Et moi aussi, c'est un livre dont j'aimerais pouvoir dire que je préférerais qu'il n'existe pas. Mais il existe. Et il existe parce que ce danger existe. Et si ce danger existe, il est quand même bien, à mon avis, que je puisse le savoir, le comprendre, le connaître de cette façon de l'intérieur. Donc je suis désolé de la leçon que cela nous donne. C'est une leçon désagréable, c'est une leçon pénible, c'est une leçon qui nous laisse un goût amer dans la bouche, surtout avec les dernières pages qu'on va voir aujourd'hui. Et selon Volodin, c'est donc une leçon nécessaire. Et comme je vous disais la semaine dernière, beaucoup d'écrivains disent avoir été eux-mêmes influencés par Volodin, et en particulier par Alto Solo. Alors, par hasard, j'écoutais à la radio, il y a quelques jours, un jeune romancier qui a publié un livre encore tout à fait inconnu ou presque pas connu, et à la radio, on discutait comme ça de différentes influences, et tout à fait à la fin, un peu comme une sorte d'aveu, hein, avouer quelque chose en dernière limite, il a expliqué qu'il y a 20 ans, il avait été très impressionné par ce livre. Donc ce n'est pas une référence qu'on met en avant en disant « Ah oui, j'aime ce livre, ça fait plaisir, c'est agréable. » Mais au contraire, c'est un aveu qu'on cache en dernier. « Ah, c'est vrai, j'ai été influencé par ce livre. »
Très bien, j'ai bien compris.
N'est-ce pas ?
Oui, ça veut dire que c'est une bonne expérience pour nous.
Dans un sens, je suis désolé.
Oui, je ne pouvais pas de toute littérature française. Non,
bien sûr.
Donc le domaine, mais, par exemple, comment dirais-je, je viens ici pour le plaisir à lire. Parce que ce livre est très loin de ce plaisir à lire. C'est pour ça que c'est un peu déçu, mais
oui, oui.
Il y a des tendances, j'ai des tendances, de certaines tendances dans le
bien
dans
sûr.
Le choix de France.
Bien sûr, bien sûr.
Philosophique. Mmh. Vous ne savez pas du tout, ça c'est très abstrait, très, comment dirais-je, dans la tête. C'est une partie de génie français, je crois.
Alors bon, je pense qu'avec le temps, ce livre entrera un peu comme Voltaire dans la catégorie de contes philosophiques. Avec le temps, également, nous serons de plus en plus loin de cette période du nazisme qui est quand même plus visible, hein, avec le sigle d'araignée, avec les banderoles, avec des phrases comme « un peuple, une culture ». Bon, on s'approche de phrases tout à fait réelles. Et puis le nom de Zagebel, qui est assez proche du nom de Goebbels, qui était donc le ministre de la propagande nazie. Avec le temps, on s'éloignera aussi de cette période. Et pour des jeunes gens, ce livre deviendra de plus en plus abstrait. Et donc, pour des lecteurs comme vous, de moins en moins agréable, mais peut-être de plus en plus recommandé par les professeurs à l'école pour l'instruction. Alors, je ne sais pas si c'est le souhait de l'auteur. ça c'est une autre histoire.
Vous avez bien choisi.
On lui demandera. Moi, j'estime avoir bien choisi. J'aurais aimé avoir plus de participants pour qu'il y ait plus de gens instruits des dangers. Mais c'est comme ça. Et puis, en étant instruits des dangers, nous sommes finalement des gens qui ont fait des études, qui pouvons lire le français. Pour vous qui êtes japonais, vous êtes une extrême minorité dans ce pays. Par conséquent, si vous étiez des personnages à l'intérieur de cette histoire, vous seriez malheureusement dans le public du concert. Et c'est-à-dire, vous auriez quelques problèmes à la sortie sur les marches du théâtre. Et donc, c'est assez dangereux pour vous, comme pour moi. Bon, pensons à finir et à nous occuper de l'histoire. Si vous souhaitez vous exprimer encore, je garderai quelques minutes à la fin. On s'est arrêté la semaine dernière, je crois, au moment où Balint Zagebel exprimait quelques vérités sur les oiseaux. En même temps, un slogan qui ressemblait beaucoup à un slogan allemand, où je vais arriver tout de suite. Donc c'est à la page 105. Et 108. Alors 105. Voilà, page 105. Donc c'est au premier tiers de la page, là où on découvre peut-être le véritable plan des frondistes. Jusqu'à maintenant, nous avons une situation avec deux choses séparées, le cirque et le concert, et nous sommes comme le narrateur, nous ne comprenons pas les intentions de ceux qui ont créé cette situation, c'est-à-dire des frondistes. Or, ici, au premier tiers de la page 105, Zagebel s'exprime et il dit « Et d'ailleurs, dehors, il y a un autre spectacle. Pourquoi deux spectacles en même temps ?» On l'a déjà dit, on l'a répété comme des perroquets, un seul peuple, une seule culture. Alors cette phrase sera complétée à la page 108. Tout en bas de la page 108. Un seul peuple, croassait Balint Zagebel dans le micro, alors qu'un autre Balint Zagebel derrière nous inspectait avec son état-major, le parterre déserté. Un seul peuple, une seule culture, un seul spectacle, s'égosillait-il. Alors, cette forme de phrase ne peut pas nous laisser indifférents, et nous sommes obligés, si nous avons un peu de culture, si nous sommes allés à l'école, nous sommes obligés de penser à ce slogan de 1938 de l'Allemagne nazie et qui était donc exactement « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Donc c'est un peuple, un royaume, un Reich, un Führer, un dirigeant. Donc un seul peuple, un seul pays, un seul dirigeant. Ici, on a donc une reprise de l'expression en trois parties, en répétant un seul, un seul, un seul, en allemand ein, ein, ein. Et à la place de peuple, état et chef, on a mis peuple, culture et spectacle. Alors c'est assez intéressant comme transformation. Parce que État et chef, sont remplacés par culture et spectacle. Et en particulier, chef est remplacé par spectacle. Comme si, sorte de message supplémentaire, c'était le spectacle qui était le chef, maintenant. Et cette notion de spectacle au-dessus de tout, de spectacle comme ce qui nous dirige, comme ce qui dirige le monde ou la société, renvoie à une autre forme de pensée qui est née dans les années 50-60, qui a été en particulier illustrée par les livres de Guy Debord. Et qu'on a appelé le situationnisme. Avec une valorisation, une élaboration philosophique sur la notion de spectacle, en disant que ce qui était le plus important maintenant pour contrôler le peuple, les foules, mais également les industries, les économies à travers le monde, c'était de créer une forme de spectacle. Et que toute contestation, toute protestation pouvait être récupérée dans le spectacle par ceux et celles qui dirigent, qui manipulent véritablement le spectacle. Ou même l'idée que le spectacle se dirige et s'organise lui-même, hein, que le monde est spectacle. Et donc on a créé ce mot de spectacularisation, c'est-à-dire isation, hein, isé, c'est-à-dire transformer en spectacle. N'importe quelle chose se trouve transformée en spectacle. Alors pour qu'une chose, un événement, une situation soit transformée en spectacle, il faut qu'elle ait un public. Donc c'est la notion de public et de spectacle qui sont développés. Alors, je ne peux pas m'engager plus loin dans la direction du situationnisme. Je vous renvoie à des livres qui sont ici à la médiathèque. Je pense que Guy Debord est traduit en japonais, au moins en partie, ou de façon assez importante, et vous pourrez vous instruire dans ce domaine. Mais alors, pour Volodine, le fait de remplacer chef par spectacle montre bien que c'est le spectacle qui dirige, c'est le spectacle qui gouverne. Et le texte disait un petit peu plus tôt que Balint Zagebel lui-même n'est pas le tyran qui s'est imposé contre le peuple, mais il est une production du peuple. Il est produit par le peuple comme une sorte de représentant qui est destiné à le diriger. Bon, ça aussi c'est une façon de penser la politique assez intéressante et qui permet d'être toujours en relation et en accord avec le peuple. En effet, ce qu'on reproche souvent aux hommes politiques, dans tous les pays je crois, c'est de ne pas être en contact avec le peuple. On dit, oui, vous, les hommes politiques, vous êtes trop haut, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la rue. Donc, il y a une autre façon de faire de la politique, qui est justement de dire, je suis le peuple, j'exprime le peuple, je suis la rue. Et il y a d'ailleurs une page où c'est écrit clairement, c'est la rue qui va s'exprimer et qui fait sa volonté politique, en quelque sorte. Alors, avant de regarder en détail ce qui se passe dans ces pages, ce sera plutôt dans la deuxième heure du cours, je voudrais essayer de reprendre un peu d'altitude, de survoler l'ensemble de ce livre pour voir ce qui s'y passe. Dans ce livre, on a dit que le titre Alto Solo renvoie au domaine de la musique. Et il y a une possibilité pour nous, lecteurs, de regarder l'ensemble de ce texte un peu comme une pièce musicale, une sorte de concerto. Il y a donc des instruments qui se présentent les uns après les autres, ou des parties de l'orchestre. Les prisonniers, les ex-prisonniers qui sortent de la prison, les musiciens, les personnes qui travaillent dans le cirque, les frondistes. Et puis ensuite, le public du concert représente chacun une sorte de partie de l'orchestre. Ces parties d'orchestre s'expriment séparément, l'une après l'autre, et puis on arrive à une partie du concerto où elles vont s'exprimer ensemble. C'est-à-dire, on rassemble les différentes parties de l'orchestre sur la place du théâtre, le théâtre et le cirque, et il y a une sorte d'opposition entre les deux parties musicales. L'une étant un peu plus populaire, l'autre étant un peu plus abstraite ou intellectuelle, comme on veut. Et puis, le concerto progresse et arrive dans sa phase dramatique, disons, où tous les instruments vont se mêler, toutes les parties de l'orchestre jouer en même temps, de façon assez violente, assez dynamique ou guerrière, pour finir dans une sorte d'explosion d'horreur du texte. Et cette montée, on appelle ça une montée de la musique, du concerto, ou de la symphonie, je ne sais pas exactement quelle pièce musicale il faut utiliser, s'achève par cette partie très violente et est suivie par un petit finale, lamento, lamento, très important, c'est aussi un nom de pièce musicale, généralement lente, triste. Lamento fait penser à se lamenter, donc lament, une façon de pleurer sur quelque chose, et ce lamento se finit par quelques notes un peu joyeuses et en même temps tristes. Et on a besoin de ce double sens. Donc peut-être c'est l'alto solo qui finit à la fin, avec ce disque qui est mis sur le tourne-disque et joué, et le personnage qui saute par la fenêtre dans un geste de liberté, de libération, et en même temps de rêve. Vous disiez qu'il n'y a pas de rêve, il y a quand même un petit peu de rêve aussi, de cette façon. Voilà. Alors, la partie qui précède le lamento, qui est la partie très violente, où toutes les parties de l'orchestre, tous les instruments sont mêlés, on pourrait l'appeler, là aussi avec un nom de pièce musicale, de partie musicale, le stretto. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, stretto. Voilà, le stretto, donc c'est également un mot italien qu'on utilise dans la musique classique et qui est la partie finale d'une pièce musicale, par exemple une fugue, dans laquelle les différents sujets musicaux et les parties d'instruments se trouvent mélangés d'une façon très dynamique ou accélérée. Et donc après ce stretto, un petit silence et le lamento final. Alors, cette façon de comparer le texte à une œuvre musicale, c'est donc une sorte de métaphore générale du texte qui me paraît adaptée justement parce que le texte s'appelle Alto Solo. Évidemment, ça nous est indiqué. Et puis, par exemple, à la page 123, à la première ligne, à propos de Dimirci Makionian, qui se prépare à se suicider, hein, sans l'avoir dit aux autres, à la première ligne, il songe au présent lamentable, à l'avenir infirme. Hein, donc là, Volodine a choisi le mot lamentable. Il n'a pas choisi triste ou terrible ou horrible, il a choisi lamentable, qui est donc de la famille de ce lamento. Se lamenter, pleurer sur ce que l'on a perdu. Et évidemment, à la suite de l'attentat frondiste, comme on dit. Alors, lorsqu'on a posé, disons, cette comparaison générale avec une pièce musicale, je crois qu'on n'a pas fini encore de décrire l'ensemble du texte. S'il y a orchestration, donc orchestration, organisation, comme avec un orchestre, cette orchestration est multiple. Il y a plusieurs niveaux. D'abord, dans l'histoire qui est racontée, il y a une orchestration. Ce sont les frondistes, dirigés par Zagebel, qui orchestrent une journée. Et dans cette orchestration, ils n'ont pas vraiment indiqué le programme dès le début. Ils ont préparé une chose d'un côté, le cirque sur la place. Ils ont préparé autre chose de l'autre côté, acheté les billets de concert pour s'y installer. Et ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils ont préparé une sorte de spectacle total, hein, total au sens où les vies elles-mêmes, les vies des gens deviennent des objets de spectacle parce que on va tuer des musiciens sur la scène, parce que on va pousser des gens sur un fil et qui vont tomber les uns après les autres, parce que on va lancer des grenades au milieu des gens sur les escaliers. Ce spectacle total semble plaire beaucoup au public. Public qui est le peuple, hein, le peuple qu'on a ramassé, qu'on a chauffé, qu'on a préparé de cette façon. Alors je ne suis pas sûr qu'il n'y ait jamais eu quelque part un spectacle total de cette façon. Hein, c'est véritablement une invention, mais on peut comparer telle ou telle partie à des choses qui sont arrivées à un ou l'autre endroit du monde. Alors cette orchestration par les frondistes, c'est ce que les personnages découvrent petit à petit. Le narrateur, qui est donc l'écrivain Yacoub, découvre progressivement ce qui s'est passé, et lorsque les choses dramatiques, tragiques arrivent, bien sûr il ne le sait pas. Et c'est sans doute plus tard, beaucoup plus tard, qu'il décide d'écrire cette histoire. Et lui-même, après l'explosion, et un mois après, lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il dit qu'il ne pourra plus écrire à cause de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il dit qu'il ne voit plus, qu'il ne peut plus écrire. Mais sans doute qu'après la mort de Amir Bekian, il s'est passé encore du temps, et peut-être plus tard, beaucoup plus tard, Cathy Bakiro a décidé d'écrire ce livre. Et bien sûr, comme il est placé, hein, sa position d'écrivain est bien après les événements, il sait exactement tout ce qui s'est passé, et lui aussi, en tant que narrateur, il va orchestrer le texte. Orchestrer l'écriture du texte pour que nous, lecteurs, soyons à la fois inquiets, hein, tenus par le suspense et en même temps toujours un peu informés, un petit peu à l'avance. Alors, qu'est-ce que j'appelle informer un petit peu à l'avance ? puisqu'on vient de parler du saut dans le vide, hein, du suicide de... c'est Amir Bekian, c'est ça? Ah non, c'est Makionian, pardon. Page 121, donc dans le lamento final, hein, la dernière journée du 27 juin, l'écrivain et Dimitri Makionian, hein, c'est en bas de la page 121. Donc ils sont là tous les deux. Et puis, ils sont donc installés chez une amie de l'écrivain qui s'appelle Hakatia Badrinourbat et qui elle-même habite un bel appartement dans un bel immeuble neuf. Donc elle a certainement une situation sociale intéressante, mais il y a une solidarité qui s'est organisée entre ces amateurs de musique, ces amateurs d'art. Page 123, au milieu de la page, explication très importante, Hakatia intervient ici comme maillon terminal d'une longue chaîne de solidarité et d'amitié. Beaucoup ont contribué à la mise en place de ce havre. Ce havre, havre, ça veut dire un endroit où on peut se protéger. À l'origine, c'était un petit port au bord de la mer qui est dans une situation protégée des tempêtes. On l'appelle un havre. Et donc ce havre a donné son nom à la ville française Le Havre. Le mot existait avant la ville. C'est pas le contraire. Donc, un lieu protégé, un refuge. Beaucoup ont contribué à la mise en place de ce havre. Le choix qui s'est porté sur le logis d'Akatia correspond autant à une décision collective qu'à une initiative individuelle. Donc, on essaye d'accueillir ces deux amis qui sortent de l'hôpital, l'un qui a perdu deux doigts et qui est blessé à l'épaule, l'autre qui a été touché aux jambes et aux yeux. Alors, c'est l'écrivain hein, qui a été touché aux yeux, qui ne peut plus ou presque plus voir, et on s'installe dans cet appartement. Et voyez en bas de la page 124, on va voir maintenant comment le texte orchestre l'événement, comment le texte nous prépare à accepter quelque chose. En bas de la page 124, plus tard, Dimitri Makionian apparaît à son tour, il donne l'impression d'être assez à l'aise. On n'écrit pas qu'il est à l'aise. Hein, on écrit « il donne l'impression d'être assez à l'aise ». Alors, se donner l'impression, ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas à l'aise. Il y a peut-être un doute possible. Et, page 125, au deuxième tiers à peu près, le bras gauche de Makionian pend inerte sur son flanc, mais il passe sa main droite mutilée le long des couvertures, il se comporte avec naturel. Pourquoi dire il se comporte avec naturel? S'il se comporte avec naturel, on n'a pas besoin de le dire. Hein, donc le fait de le dire indique quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et deux lignes plus loin, il ne fait preuve d'aucune fébrilité particulière. Aucune fébrilité, hein, nervosité. Là aussi, on le signale, on le souligne. Hein, il y a une sorte de volonté de montrer que, finalement, cette personne simule un état calme. Il simule un état calme et, à la dernière ligne de la page 125, le narrateur révèle en quelque sorte que quelque chose va se produire. Il dit, Dimitri Makionian a choisi pour cette dernière scène. Alors là aussi, il y a un double sens, parce que c'est la dernière scène du livre, du texte, de l'écriture, mais en même temps, dernière scène pour celui qui choisit le disque. Celui qui choisit le disque, Makionian, il sait que pour lui, c'est la dernière scène. Donc le suicide est prémédité. Hein, il est arrivé dans cet appartement, dans cette maison où il est accueilli, et il a pensé que, bon, je vais créer une situation agréable avec la musique, par exemple, de Tchaki Esterkhan au violon, et lorsque nous aurons cette situation, je sauterai par la fenêtre, comme ça, très calmement. Et donc, la dernière page, le dernier paragraphe, le poème, c'est donc la musique. Vous voyez comment texte et musique sont métaphorisés l'un dans l'autre. Un autre texte est un morceau de musique, et un morceau de musique est un poème, lui aussi. Le poème déroule ses amples phrases pathétiques, et Dimitri Makionian se détourne et va, comme sur la pointe des pieds, à la fenêtre. Il se détourne des autres auditeurs, de l'écrivain, de la géologue. C'est l'histoire d'un violoncelliste qui se détourne. Donc on répète trois fois le verbe « se détourner ». Qu'est-ce que ça veut dire « se détourner » ? Ça veut dire, évidemment, changer de position, mais également changer de monde, tourner le dos au monde réel pour se mettre en face d'un autre monde qui est le monde imaginaire, qui vient de la musique, dans lequel le musicien peut se plonger complètement. Alors, moi, je ne suis pas musicien, je ne joue pas d'un instrument, je n'ai pas cette expérience de la puissance de la musique, et surtout de mon corps dans la musique en train de jouer. Je crois que lorsqu'on est musicien, je ne sais pas s'il y a parmi vous des musiciens, pianistes, ou violonistes, ou flûtistes, voilà, lorsque vous jouez, je crois que vous êtes complètement dans ce monde de la musique. Et ce monde de la musique, il n'est plus le même que le monde, disons, vulgaire, prosaïque des spectateurs. Donc, détournement, se détourner, aller dans cet autre monde qui est un monde de rêve, où d'un seul coup on retrouve ce qu'on avait vu déjà au début pour les oiseaux, c'est-à-dire le rêve de monde de liberté, la liberté de voler. Alors on dit justement, tout le monde le dit, être libre comme un oiseau, voler comme un oiseau, eh bien les hommes n'ont pas cette liberté depuis le début. Et l'histoire de Icare, Icarus, qui veut voler, ou d'autres, mais plus proche de nous, l'invention de l'avion au 19e siècle, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui souhaitent voler. Et finalement, on a réussi, puisque l'on peut prendre l'avion aujourd'hui pour une somme d'argent finalement assez faible. Alors le voilà donc qui se détourne, et puis il regarde par la fenêtre. En fait, ce n'est pas une fenêtre. Voilà exactement où le double sens est articulé. Il regarde par la fenêtre. En fait, ce n'est pas une fenêtre. Donc, c'est-à-dire, là où moi et vous, nous voyons une fenêtre, lui, il ne voit plus une fenêtre. Grâce à la musique, il a remplacé par autre chose, et devant ses yeux, ce n'est pas une fenêtre, c'est l'ouverture d'une caverne où habitent des oiseaux. Donc il est entré dans son monde de rêve, et dans ce monde de rêve, il va sauter pour s'envoler. Alors on peut donc penser que c'est une fin heureuse pour lui, même si dans la réalité, il s'est certainement écrasé par terre. Alors, il s'est écrasé par terre. On a vu que c'est à quel étage cet appartement? J'ai oublié l'étage. C'est dit quelque part, justement. Elle habite un bel appartement au 8e étage, page 122, au milieu de la page 122, au 8e étage. Alors bon, je crois que du 8e étage, on ne survit pas. Donc, il est mort. Alors donc, lui aussi, il saute d'une hauteur, et de cette façon, il rejoint les personnes qui étaient forcées sur la place devant le théâtre, qui étaient forcées de monter sur le fil et finalement de tomber. Mais, à la grande différence de ces personnes, c'est un choix libre. c'est la liberté de sauter. Ça, c'est tout à fait différent, c'est donc même exactement l'inverse, hein, le contraire. Alors maintenant que nous avons, découvert ou bien expliqué ces différentes couches de l'orchestration, hein, donc orchestration du livre comme une pièce musicale, orchestration de l'histoire, dans l'histoire, par les frondistes, orchestration du texte, de l'écriture du texte, par l'écrivain, nous pouvons revenir un petit peu sur quelques détails de l'horreur des événements. Page 94, justement pour vous montrer comment le texte orchestre la préparation des événements, le narrateur se dédouble en quelque sorte en deux personnes dans le texte. On va dire que l'écrivain, c'est celui qui écrit le texte. Il est donc longtemps après les événements. Cet écrivain est un écrivain fictif, c'est un personnage du texte. Et nous savons bien sûr qu'il est en relation certainement avec l'écrivain réel, celui qui a permis que ce livre soit devant nous. Si l'écrivain reste fictif, il n'y a pas de livre dans notre monde réel. Et en même temps, il est un personnage des événements. Dans le temps, on pourrait mettre comme ça, le temps des événements, hein, le temps des événements, et puis ici, le temps de quoi ? Le temps de la narration, le temps d'écrire. Je ne peux pas mettre écriture parce que ça fait accent aigu aussi. Donc le temps de la narration. Voilà. Alors, nous ne savons pas combien de temps sépare TN, le temps de la narration, et T, E accent aigu, le temps des événements, mais certainement un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, qui permettent au narrateur de préparer son texte. Alors, il faut bien penser, et ça c'est dans beaucoup de livres, très très couramment, dans toutes les littératures, un personnage qui a vécu des événements se trouve plus tard celui qui écrit l'histoire. Et bien sûr, celui qui écrit l'histoire sait comment ça finit, tandis que celui qui vit les événements ne le sait pas encore. Et il y a beaucoup de possibilités dans la littérature de marier, de mixer ces deux points de vue. Le point de vue de celui qui sait et le point de vue de celui qui ne sait pas. Alors certains narrateurs adoptent le point de vue de celui qui ne sait pas, et donc le lecteur découvre en même temps que le personnage les événements qui arrivent, même si l'écrivain le savait. D'autres, au contraire, préviennent à l'avance que ça va mal finir, ou que ça va bien finir, ou que ça va finir comme ci ou comme ça. Et alors, lorsque le lecteur est prévenu à l'avance de comment ça va finir, le problème c'est, en gros, comment ça se produit. On sait déjà comment ça finit, mais on attend de savoir comment. On est un petit peu dans cette situation avec Alto Solo. Nous savons, nous avons compris à des petits détails que ça va mal finir, mais nous ne savons pas exactement comment. Donc c'est un suspense qui ne porte pas sur la fin elle-même, mais sur la progression vers la fin. comment on approche, comment on arrive vers cette fin. Alors, je disais donc, page 94, la deuxième ligne, en haut de la page, les deux personnages, justement, s'interrogent. Je ne comprends pas, moi non plus, dis-je. Donc, comment ça va finir, hein? C'est Dojna qui dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Alors, je ne comprends pas, moi non plus, dis-je, mais nous allions vite le découvrir. Alors, on voit bien entre ces deux phrases, je ne comprends pas, moi non plus, dis-je, c'est le personnage. T-E accent aigu, hein, c'est-à-dire dans le temps des événements. Et la phrase suivante, mais nous allions vite le découvrir, ça, c'est une phrase de celui qui sait comment ça se passe et qui dit que on va savoir bientôt. Parce que s'il ne sait pas, il ne peut pas penser que c'est bientôt. On pourrait, par exemple, ne jamais savoir. Ça arrive très souvent, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, on ne l'a jamais su. Donc, on va le savoir et il le sait, il nous le dit. Donc, je ne comprends pas moi non plus T.E., le temps des événements, mais nous allions vite le découvrir. Ça, c'est une phrase de T.N., le temps du narrateur. On peut comprendre d'ailleurs que tout ce qui était avant et qui consistait à noter l'heure précisément, bien, je ne sais pas comment vous faites, moi je regarde aussi plusieurs fois dans la journée l'heure qu'il est, mais ce soir, si j'écris quelque chose au sujet de cette journée, je n'ai pas besoin de noter l'heure, en disant, ah oui, quand il était 10h55, j'ai dit ça aux étudiants, et quand... sauf si il va se passer quelque chose de grave, ce que je ne souhaite pas. Voilà. Donc, l'organisation même du texte, en mettant dans le texte des éléments qui incitent le lecteur au suspense, hein, cette organisation tout entière, cette orchestration du texte dans le suspense, elle vient du temps du narrateur. Du narrateur à son point de vue postérieur. Et donc, à la dixième ligne, pour la dernière fois de cette soirée, j'avais consulté ma montre, elle indiquait 8h17. Hein, donc c'est la dernière fois, parce que après, il n'aura pas le temps de regarder sa montre, il se passe trop de choses malheureusement. Après une minute d'expectative, ils parurent soulagés et basculèrent pour de bon dans l'univers musical. Voyez ici comment le verbe basculaire, basculer, ça veut dire tomber d'un côté. Basculer dans l'univers musical, ça correspond exactement à cette dernière phrase du livre, lorsque Makionian va lui aussi... écoute la musique, il écoute le murmure de Tchaki et Serkan qui chante autour de lui, et quand il s'élance, il la voit. Donc lui aussi, il s'élance, il bascule dans ce monde de l'imaginaire qui se trouve dans ou derrière la musique. On peut donc faire un rapport avec ce verbe hein, de la page 94, basculaire pour de bon dans l'univers musical. Malheureusement, les frondistes ne basculent pas dans l'univers musical. C'est bien là le problème. Du côté de nos personnages, Dojna et l'écrivain, il y avait un espoir, un dernier espoir fou. La musique va les toucher, les émouvoir. Et eux aussi, les frondistes, ils vont basculer dans l'univers musical. Malheureusement, non. Très peu de temps après, on découvre la réalité, l'horrible réalité, et la scène qu'on a décrite la semaine dernière avec l'interruption de la musique qui finit par les coups de feu contre un musicien et contre, non d'abord contre le frère de Bienno, Matko, à la page 100, lorsque les deux frères se retrouvent sur la scène. Matko, pas possible, s'exclama-t-il. Bieno, roqua l'autre en réponse. Bieno, salaud. Et il le gifla à toute volée. Au milieu de la page 100, à peu près. Alors, le public applaudit. Je ne sais pas si c'est intelligent, mais le public applaudit. Et comme si c'était un spectacle. Donc, involontairement, le narrateur avoue que cet événement familial, dramatique, des deux frères qui se retrouvent, constitue quand même une certaine forme de spectacle, d'une façon. Mais ce spectacle va être interrompu, et alors pour la première fois, donc de façon dramatique, par un pistolet, et page 101, posément tira deux balles sur celui qui avait frappé un de ses combattants d'élite. Donc là, il n'y a pas de jeu, hein, il n'y a pas d'amusement. Un frondiste est attaqué, automatiquement le corps frondiste, hein, un autre, un chef, n'importe qui, répond et tire. Alors bien sûr, il y a une disproportion, et la disproportion est très importante à considérer, entre les armes qui sont d'un côté et de l'autre côté. Du côté des amateurs de la musique, les armes sont les instruments de musique et peut-être un certain silence, un certain mépris ou bien l'applaudissement. Ça, ce sont les armes de Dojna, des spectateurs, du public, je cherchais le mot, du public du concert. Et de l'autre côté, les armes, eh bien, ce sont des pistolets, des grenades et autres armes à feu. Donc il y a une disproportion. Des armes. Cette disproportion des armes est très importante parce que c'est à cause de la proportionnalité, nous avons tous dans notre esprit un peu de logique qui nous dit que les choses doivent être à peu près proportionnées, proportionnelles. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, comme un accident, on peut le punir, mais on peut le punir d'une façon proportionnée. On le prive de bonbons, on l'envoie se coucher, on lui met une baffe. Même ça, maintenant, ça va être interdit. Bon, mais on ne lui coupe pas une main ou la tête, on ne le tue pas. Ça, c'est disproportionné. Alors, lorsqu'une personne commet un crime, cette personne est arrêtée. Et tout le travail de la justice, c'est de trouver, en fonction des lois du pays, une punition proportionnelle. Alors, si quelqu'un a volé une pomme, c'est pas la peine de le mettre en prison pendant 20 ans. Si quelqu'un a volé un morceau de pain, c'est pas la peine de l'envoyer au bagne. C'est la base des Misérables de Victor Hugo. Le vol d'un morceau de pain avec une punition tout à fait disproportionnée contre Jean Valjean, qui est une punition pour la vie entière. Bon, c'est pas raisonnable. Cette disproportionnalité, disproportion, entraîne bien sûr le sentiment d'injustice. Alors ici, vous avez deux frères qui se retrouvent, il y en a un qui met une gifle à l'autre. Bon, ben, je sais pas, proportionnellement, on peut lui casser la gueule. Non, on sort un pistolet et on le tue. Cette disproportion n'est pas imaginable par les personnes, entre guillemets, ici nommées intellectuelles. Ces personnes ont une certaine idée des lois et des proportions, justement. Et donc, on ne peut pas répondre à une gifle par deux balles dans la tête. C'est la surprise pour eux. La surprise et en même temps ce qu'on appelle aussi la douche froide, hein, c'est-à-dire le choc de découvrir la réalité frondiste qui est la peine maximale, hein, la peine de mort directe, sans procès. Ça s'appelle exécution sommaire. Exécution sommaire. Sans procès, sans justice. Cette exécution sommaire, elle me fait penser d'ailleurs à la définition de ce qu'on appelle le pouvoir totalitaire. Hein, le pouvoir totalitaire, la dictature, c'est le pouvoir concentré entre les mains d'un seul, donc on a vu un chef par exemple, et le pouvoir exercé d'une façon que l'on dit tout à fait arbitraire, injuste, qu'on appelle aussi discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis sans raison. C'est ça ou c'est ça, hein, c'est petit ou c'est énorme. J'ai pas besoin d'expliquer. Je n'ai pas de compte à rendre. Il n'y a pas de loi au-dessus de moi pour juger de la proportionnalité de ma réponse. C'est ça qui est discrétionnaire ou sommaire. Le résultat, c'est d'ailleurs, les applaudissements s'arrêtent, bien sûr, quelqu'un crie, et du côté des frondistes, alors, page 101, 6e, 7e ligne, ces réactions furent couvertes par le tonnerre des ovations frondistes. Donc du côté frondiste, ovation, hein, c'est-à-dire on applaudit, on crie, on se lève, on aime ça, on aime ce spectacle-là. En bas de la page 101, c'est donc comment le texte nous prévient de la suite, hein, si vous voulez. À l'orchestre, tout le monde était paralysé sous le choc, mais on pouvait prédire qu'à cette minute d'effroi succéderait un mouvement de panique. Je songeais à notre fragilité et à celle de Dojna. Fragilité contre pistolet. Fragilité contre à centaines de personnes armées. Ça aussi, c'est disproportionné. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, cette disproportion ou disproportionnalité nous renvoie également à ce que les nazis ont voulu faire contre les juifs. Mais pas seulement contre les juifs. C'est-à-dire, comme on a dit déjà, il n'y a pas que des piafs et des nègres, il doit y avoir d'autres catégories. Donc, pour les nazis, c'était les communistes, les juifs, les tziganes, les malades mentaux, et puis bientôt les artistes de l'art dégénéré, hein, comme il disait, et peut-être d'autres catégories, il suffisait d'attendre. C'est pour ça que certains disent, si on ne défend pas tout de suite les juifs, après les juifs, ça sera quelqu'un d'autre. Et petit à petit, toutes les catégories pourront être concernées, et vous aussi, finalement. Donc, la notion de proportionnalité pouvait être, ne pouvait pas être imaginée. Ce qu'on appelle la solution finale, c'est-à-dire le crime contre tous les juifs en tant que groupe, contre tous les homosexuels, tous les communistes, j'avais oublié homosexuels, donc ça compte aussi parmi les cibles. On ne pouvait pas imaginer qu'il était question de les éliminer, hein, purement et simplement. Donc là encore, disproportion. Je passe à la page 103. L'action n'avance pas très vite d'abord, hein, sur la scène. Les gens hésitent, on hésite à réagir, on se demande ce qui va se passer. Et le narrateur essaye d'être assez précis, assez détaillé pour nous faire comprendre cette évolution. évolution qui prend quelques secondes, 3, 4, 5, 10 secondes au maximum. Hein, et pour nous, c'est plusieurs pages à lire tranquillement pour voir comment ça se passe. Une sorte de ralenti, hein, l'organisation d'un ralenti. Le texte ralentit l'image. Donc on imagine au cinéma un procédé très simple qui consiste à ralentir pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Hein, vous avez le tireur qui entre comme ça, qui sort son pistolet et au ralenti. On a tous vu ça dans des films. Alors, page 103, donc on attrape un oiseau. Ça devait être l'oiseau du début hein, également. On lui arrache une manche de son vêtement et donc à la huitième ligne, ainsi mire en évidence sa peau garnie de duvet noir. Donc on montre bien ce qui est la différence. La différence, quelle que soit la différence, c'est une différence par rapport à nous. Alors, les nazis avaient décidé que les Ariens, Ariens, grands, blonds, sportifs, étaient la race évidemment élue. Et donc tous ceux qui avaient une apparence physique très différente des Ariens, y compris les Noirs, les Asiatiques, pourraient être concernés également, hein, ces différences pouvaient être montrées. Alors pour les Juifs, hein, on a cherché pendant près de 100 ans à avoir une description physique, hein, les oreilles, le nez, la forme de la tête, enfin tout pouvait être indicateur et il y avait des spécialistes de ce genre de chasse, hein, de recherche de chasse. Ce que le narrateur appelle ici perversion xénophobe en haut de la page 103. Alors lorsqu'on a montré cette différence, ça amuse tout le monde et par hasard il y a à côté le deuxième des trois prisonniers, des trois ex-prisonniers, qui est le très fort, hein, l'haltérophile, et lui il va commencer à donner des coups de poing. Alors coups de poing et en bas de la page 103, à cinq lignes du bas, il y eut alors une nouvelle détonation, hein, donc nouveau coup de feu, et il tombe avec le front éclaté, donc une balle dans la tête. Là encore, question de proportion, hein, au lieu d'arrêter quelqu'un, de le mettre en prison, en attendant son procès, on va l'exécuter tout de suite. Alors maintenant à la page 104, la situation va évoluer dans un sens bien précis, c'est la transformation de la scène. Dans le théâtre, en effet, il y avait des lumières. Ces lumières étaient orientées vers la scène où sont les musiciens qui jouaient. Et ce qui s'est passé après, Bienno et Matko, c'était sur la scène et l'haltérophile également, c'était sur la scène. Ici à la page 104, au milieu de la page, Zagebel fait un signe et on rallume les lumières. Hein, ce qui montre aussi l'orchestration, la maîtrise par les frondistes. Le lustre central se ralluma, inondant le théâtre d'un jour fallacieux dont le seul mérite était qu'il nous ramenait brusquement parmi les victimes. Après cet instant d'abomination où nous avions été des voyeurs silencieux. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont applaudi lorsque Matko a giflé Bienno, ils étaient des spectateurs d'un spectacle. Malheureusement, ce spectacle est devenu horrible et ils sont toujours spectateurs, voyeurs. La lumière, maintenant dans toute la salle, transforme tout le public également en victime. Et à la ligne suivante, maintenant que la lumière éclairait la salle, notre situation d'otage apparaissait mieux. Donc le public se transforme en otage. Otage, c'est-à-dire retenu malgré leur volonté par quelqu'un qui commet un crime contre ces personnes. Deux lignes après, notre rôle ne se bornerait pas à rester debout face à la scène. Dans la tragédie, on allait nous attribuer une fonction autre que celle de simple témoin. Donc le mot tragédie est bien inscrit, c'est-à-dire qui finit mal et dont on connaît la fin tragique et dont on attend de savoir comment on y arrive. À partir de maintenant, on va mélanger les paroles de Balint Zagebel, les actions des frondistes et ensuite à l'extérieur, les actions du cirque. Les trois dimensions, les trois parties vont se mêler. Alors on trouve toujours dans la bouche de Zagebel des jeux de mots, des plaisanteries comme il les aime au sujet des oiseaux. Donc à la page 105, troisième ligne, une amusante prise de bec. Prise de bec, c'est une dispute. On utilise cette expression couramment pour une dispute entre deux personnes, mais qui renvoie bien sûr à des oiseaux qui se disputent en se battant avec leur bec. Et juste après, le quatuor pour cordes, un trio pour plumes. Donc on joue sur expression avec pour, corde, pour, plume. Et deux lignes plus bas, ne se sentent pas à leur aise sous cette cage dorée. Cette cage dorée, c'est une allusion bien sûr au théâtre. Le théâtre lui-même qui est un beau bâtiment, un lieu prestigieux, précieux, qui forme donc une cage dorée, une cage en or, expression que l'on utilise pour dire que quelqu'un est prisonnier, otage, mais sa prison est quand même très belle. Ce n'est pas une sale prison dégoûtante, c'est une cage dorée. Et on arrive à la notion des deux spectacles. Pourquoi deux spectacles? Donc, un seul spectacle. Le but maintenant de Zagebel est révélé exactement au milieu de la page. Allez, on va conduire ces messieurs dames à l'extérieur. Donc on va les pousser dehors. Et juste après, je me reprochais vivement d'avoir attiré Dojna dans un pareil guet-apens. Alors le mot guet-apens, guet-apens, A-P-E-N-S, c'est un très très vieux mot qu'on trouve au moins au 10e ou 11e siècle hein, dans des textes. C'est la formation de guet du verbe guetter, hein, qui veut dire observer, et apan qui vient du verbe penser. Penser, c'est-à-dire pour voir, pour réfléchir à ce qui va se passer. Donc on regarde pour essayer de comprendre. Donc un guet-apens. Ensuite, le sens a changé un petit peu au sens de préméditer, préméditation pour faire quelque chose de criminel. Donc un guet-apens, un guet-apens, machination organisée dans un but criminel, dans le but de nuire à quelqu'un. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a organisé un peu comme ça pour rigoler, on va voir ce qui va se passer. Non, tout a été préparé, prévu, imaginé par les frondistes. On va laisser les musiciens commencer, on va faire sortir le public. Bon, ce qui n'était pas prévu, c'était Matko qui rejoint son frère et qui le gifle. Ça, les frondistes ne l'ont pas prévu. Sorte d'incident supplémentaire. Donc les deux anciens prisonniers qui sont tués sur la scène, ça n'était pas prévu. Mais c'est un petit détail, au hasard. On laisse le hasard de côté et on reprend le plan. Hein, le plan maintenant, c'est de les faire sortir. Nous serons, donc en bas de la page 105, nous serons bousculés, invectivés, et quand nous traverserons leur fameuse masse populaire, nous serons bombardés d'œufs pourris, où on nous crachera dessus, on nous molestera. Ensuite, nous monterons chez toi pour nous laver et nous soigner. Alors vous voyez, ça c'est ce que dit le personnage narrateur ici, j'ai effacé, dans le temps des... peu accent aigu, c'est-à-dire dans le temps des événements. Il imagine un futur. Et donc il s'exprime au futur. Nous sortirons, nous traverserons, nous irons chez toi, malgré les humiliations, etc. Donc, là encore, dans le temps des événements, le personnage ne peut pas imaginer ce qui va se passer après. Il y a déjà deux personnes qui ont été tuées, hein, mais il ne peut pas imaginer d'être lui-même victime. Page 106, donc évacuation de la salle. On pourrait observer aussi comment sont décrits les frondistes. Les frondistes sont rarement nommés comme des hommes. Ils sont quelque chose de tout à fait stéréotypé. Troisième ligne de la page 106, ce sont des survêtements noirs, poussés par les survêtements. En bas de la page 106, trois lignes en bas, ce sont les gaillards à brassards. Brassard, c'est un ruban que l'on a au bras pour indiquer sa fonction ou son appartenance à un groupe. Les gaillards à brassards. L'expression elle-même, d'ailleurs, est assez drôle ou bizarre. À la page 107, 2, 4, 6, 7 lignes du bas de la page, on les appelle les cuirs et les chemises paramilitaires. Donc les cuirs sont des hommes en cuir, des manteaux de cuir et des chemises. Alors là aussi, hein, pour les Allemands, on parlait des chemises brunes. Donc on les nommait comme ça. Pour les policiers, encore aujourd'hui, hein, on peut dire les képis, parce que c'est leur chapeau. Donc le fait qu'ils ont quelque chose d'identique, d'uniforme, hein, justement, l'uniforme permet de les désigner. À la page 107, on voit maintenant comment s'organise cette nouvelle situation. Troisième ligne, donc l'exploit avait consisté à amener les intellectuels sur les gradins du cirque. Donc les intellectuels, c'était le public du concert. Ce public du concert a été amené maintenant dans le cirque. C'est une sorte d'exploit que le peuple applaudit. Oui, les frondistes ont réussi, ils ont fait sortir les intellectuels et ils nous les donnent maintenant comme quoi alors. Ça ne vous fait pas penser à autre chose de beaucoup plus ancien, cette histoire ? L'Empire romain ? Les gladiateurs de l'Empire romain. Alors, qu'est-ce que c'est les gladiateurs ? Eh bien, ce sont des... En général, c'était des prisonniers, des gens qui ont été ramassés comme ça et qui ne souhaitaient pas particulièrement se battre contre des lions ou d'autres animaux, mais on les a poussés dans l'arène du cirque. Donc là, on voit s'organiser un peu un système qui ressemble en effet au jeu du cirque de l'Empire romain avec ce qu'on appelait les gladiateurs. Et là aussi, la comparaison devient maintenant beaucoup plus intéressante que les nazis, dans un sens, hein, les gladiateurs de l'Empire romain. En effet, il y avait toujours l'empereur, enfin très souvent l'empereur était là, et il pouvait aussi s'exprimer, faire un discours politique, ou exprimer son opinion hein, par rapport au fait de vivre ou de mourir. Hein, on connaît bien. Ça veut dire « à mort ». Et dans l'autre sens, ça veut dire « on le sauve ». Alors c'est vrai, quand un gladiateur s'était bien battu contre des animaux, on lui donnait une sorte de victoire, hein, qui était de vivre, simplement. Donc, le pouce vers le haut, et il pouvait sortir, il restait vivant. Il ne s'est pas très bien battu, le pouce vers le bas, et on envoyait d'autres animaux, d'autres gladiateurs, pour se battre contre lui. C'est la mise à mort. Alors, nous sommes maintenant dans un cirque de type romain, et ça m'a fait penser aussi à cette expression très classique qui vient d'un auteur romain, lui aussi satiriste, qui s'appelle Juvénal. Alors Juvénal, c'est un auteur qui en latin, ça doit être Juvenalissu, en japonais, Juvenalissu. Oui, j'ai vérifié. Hein. Le katakana, c'est Juvenalissu. Et c'est un auteur du 1er et 2e siècle. Fin du 1er, début du 2e siècle de notre ère. Et il est l'auteur de satire. Ses ouvrages, ou ce qui reste de ses ouvrages, sont rassemblés sous le titre de satire. Alors vous vérifierez, hein, vous chercherez Juvénal. Et il y a quand même quelques expressions qui sont très connues de Juvénal. Alors d'abord, celle qui nous concerne le plus directement, c'est « panem et circenses ». Vous avez déjà entendu cette expression ? Panem et circenses. Ça veut dire du pain et des jeux. Donc en latin, panem et circenses. Du pain et des jeux. Que veut le peuple ? Comment diriger le peuple ? Eh bien, c'est très simple, du pain et des jeux. C'est pas la peine de faire autre chose. Ah, il est là. Voilà. Également l'expression très connue « mens sana in corpore sano ». Mens sana, c'est un homme sain, in corpore sano, dans un corps sain. Un homme sain dans un corps sain. Ce qui veut dire que si le corps est sain, c'est l'hygiène, la propreté, eh bien l'homme lui-même est propre, dans un sens moral, disons. Donc, d'abord l'hygiène, et l'hygiène produit un homme moral sain. Ça, c'est très bien pour les Japonais, hein, dont l'hygiène a toujours été très bien connue, alors que les Français n'étaient pas très propres. Encore aujourd'hui, hein, il y a des statistiques sur la propreté des Français qui sont pas très agréables pour nous, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, il faudrait donc essayer de comparer peut-être Alto Solo avec l'univers des satires de Juvénal, où on pourrait peut-être avoir quelques éléments supplémentaires. Alors nous sommes dans cette situation un peu de cirque romain, et maintenant on va donner du spectacle au peuple qui est bien chauffé, bien préparé. Alors il y a au moins deux parties scéniques, hein, deux parties de scène. D'abord, enfin trois, on va dire trois. D'abord le fil qui est au-dessus, avec des gens qu'on pousse et qui tombent. Le clown, alors ça c'est très important le clown. Le clown qui a l'air de jouer le clown, parce qu'il est habillé, il est maquillé en clown. Et ce qu'il fait ressemble terriblement, c'est une sorte de mime, de quelqu'un qui est désespéré et qui cherche à s'enfuir. Et bien sûr, il ne peut pas s'enfuir. Et ça fait rire tout le monde, parce qu'il joue à quelqu'un qui veut s'enfuir. Mais peut-être qu'il ne joue pas. Peut-être qu'il veut vraiment s'enfuir. Mais que tout le monde croit, enfin le peuple, croit qu'il est en train de jouer. C'est horrible comme spectacle. Hein, terrible. Alors deuxième et troisième, ça sera en quelque sorte le clou de la soirée, l'apothéose. Les grenades lancées sur le public du théâtre. Hein, donc voilà ces trois zones scéniques. Le clown, les funambules, les gens entassés sur les marches du théâtre. Alors, au milieu de la page 107, il nommait justement précisément avec les lumières, ça c'était pas romain, hein, ça c'est beaucoup plus du côté des nazis, avec l'électricité, où on jouait beaucoup avec les lumières. Les marches balayées de pinceaux blancs devenaient un second lieu scénique. Donc très précisément nommé hein, un lieu scénique. Et deux lignes après, maintenant sur la pierre richement éclairée, cette nouvelle attraction. Nouvelle attraction, nouvelle chose attirante, amusante pour le public. Les amateurs de musique douteuse, ceux qui se compromettaient avec des artistes nègres, ceux qui sympathisaient avec l'ennemi, voilà leur crime, hein, précisément, avec les pouilleux du Sud. Pouilleux, ce sont ceux qui ont des poux, hein, donc des pauvres, des malheureux, qui ne peuvent pas se laver, qui ont des poux, et que l'on allait rééduquer en vitesse et en public. En vitesse et en public. Hein, il y a aussi une sorte de jeu de mots. Qui est ce qu'on avait vu l'autre jour, hein, le zeugma. Rééduquer. Alors rééduquer en vitesse, comme l'éducation, je sais pas, rapide, et en public. Non, sans se décaler entre les deux. Voilà, donc on les pousse, on les installe au milieu des escaliers. Page 108, on en a déjà parlé. Oui, au milieu de la page 108, on peut quand même signaler, parce que les expressions sont indiquées clairement par le narrateur, plusieurs balint zagebel. Donc apparemment, le pouvoir se dédouble ou se multiplie en plusieurs qui se ressemblent. Assumait donc au même moment le rôle de chef suprême des délires de mort de Champrouge, le rôle d'orchestrateur des pulsions populaires. Donc, c'est-à-dire le chef n'est pas un chef au sens du tyran, mais il est seulement un orchestrateur des pulsions populaires. Ce sont les pulsions populaires qui dirigent tout et qui ont besoin tout de même d'un orchestrateur pour organiser, pour concentrer les forces contre tel ou tel ennemi. Ce qui veut dire que derrière Zagebel, le véritable criminel dans toute cette histoire, c'est le peuple. C'est le peuple dont les instincts les plus bas, les plus animaux, les plus monstrueux sont satisfaits par quelqu'un. Alors le peuple, bon, je ne sais pas si ça peut être vous et moi aussi. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les foules, les situations comme ça de grands groupes, donc je m'écarte et j'ai l'impression de ne pas faire partie du peuple. Mais si on dit à des gens « Ah non, moi je ne fais pas partie du peuple », automatiquement, on est accusé d'être « Comment, mais vous n'êtes pas démocrate ?»« Mais si, je suis démocrate, mais c'est pas la même chose. » Donc, on est accusé comme ça, à tort, si on n'aime pas les instincts les plus bas, si on ne veut pas y participer. Et en haut de la page 109, la situation telle qu'elle est maintenant, quatrième ligne, une petite quarantaine d'animaux craintifs ayant choisi librement de se blottir les uns contre les autres. Alors en fait, ils n'ont pas choisi librement, mais cette expression est précédée par le verbe « nous devions ressembler à ». C'est la troisième ligne. Nous devions ressembler à quoi ? Une petite quarantaine d'animaux craintifs ayant choisi librement de se blottir les uns contre les autres. Donc pour le public, hein, des milliers de personnes qui sont là, ces 40-là sur les marches, on a l'impression qu'ils ont choisi volontairement, librement d'être là. Alors qu'en fait, il y a des militaires tout autour qui les empêchent de bouger. Mais la lumière les éclaire, les isole, et la lumière n'éclaire pas les militaires qui sont tout autour. Donc, on a l'impression qu'ils sont là volontairement, par miracle. C'est l'orchestration, justement. Zagebel reprend ses paroles. Le peuple aime la culture, pas l'aviculture. Vous savez que avis, c'est la racine de oiseau en latin. Et donc, récemment, on a parlé de la grippe aviaire. Hein, vous avez entendu parler de la grippe aviaire. Mais l'aviation et l'avion font partie de la même famille, hein, qui commence par avis. Donc le peuple aime la culture, pas l'aviculture. Vous voyez le jeu de mots, hein, le niveau. Donc on aime la culture, mais on n'aime pas la culture des oiseaux. Donc on n'aime pas les oiseaux. Pas les baldachianeries. Bon, on se moque évidemment du compositeur baldachian, comme on l'a déjà vu. Pour intellectuel prétentieux et fainéant, huppé. Huppé, c'est un mot qui ici a deux sens. Huppé, ça veut dire un peu prétentieux, de la haute société, et en même temps, en effet, des oiseaux ont une huppe. C'est une petite touffe de plumes, huppe ou aigrette. Pas l'art dégénéré qui donne la chair de poule. La chair de poule, c'est le frisson, c'est la peur, le sentiment de la peur, c'est l'émotion que l'on peut avoir devant une œuvre d'art assez terrible, assez terrifiante. Alors je repense à ce que disait monsieur tout à l'heure à propos du livre Alto Solo. C'est un livre qui donne la chair de poule, qui fait peur, et il faut éviter de faire peur. Si on évite de faire peur, on maintient le peuple dans un spectacle amusant, comme ça. Donc, à chaque formule équivoque, hein, le mot c'est bien équivoque, equi ou ocus, c'est-à-dire deux voix qui parlent ensemble, hein, c'est donc le double sens. La foule réagissait par des cris fanatiques. On continue avec les bons mots, les expressions à double sens. Le peuple s'est trop longtemps fait pigeonner. Pigeonner, ça veut dire tromper. Mais évidemment, il y a le mot pigeon. Par les roitelets de la décadence. Roitelets, ça veut dire des petits rois. Des rois qui ne méritent pas d'être des rois. Mais c'est aussi le nom d'un oiseau qui s'appelle roitelet. Le peuple n'a pas besoin qu'on lui serine. Seriner, c'est un verbe, mais en même temps qui renvoie à un oiseau, qui est le serin, petit serin. Ce qu'il faut ou non picorer. Picorer, ça veut dire manger des graines, hein, manger des graines. Donc, de quoi on doit se nourrir? Quelle doit être notre culture? Et en même temps, un verbe qui s'applique aux oiseaux. Etc., etc. Commentaire du narrateur. Il aurait suffi d'une injonction pour qu'eût lieu le lynchage du dernier carré symbolique d'étrangers intérieurs. Étrangers intérieurs, des gens qui sont différents à l'intérieur même du pays. Le dernier carré symbolique, eh bien, ce sont ces 40, hein, ces 40 dernières personnes qui sont sur les marches. Et si Zagebel avait dit « Allez-y, tuez-les », eh bien, le public serait allé directement les massacrer. Bon, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais ça n'est pas très différent. Alors, on passe à la page 110 et on voit ce qui se passe du côté des funambules. on éclaire. Il suffit de changer la direction des éclairages. On éclaire d'abord la naine. Le narrateur ne la connaît pas. Donc, à la troisième ligne, elle est une femme de taille minuscule, une naine. Également, le narrateur ne le connaît pas. À la page 111, aux deux tiers de la page 111, un équilibriste qui refusait de se laisser convaincre. Ça doit être un des oiseaux que l'on a déjà connu avant. Donc le narrateur ne les connaît pas. Il y a bien des articles indéfinis, une femme, un équilibriste. Je reviens à la page 110. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cet équilibriste que l'on pousse sur le fil? Eh bien, comme on menace de jeter la naine dans le vide, les gens décident d'obéir. Hein, donc, ils sont obligés d'essayer de traverser le fil. Et peut-être que s'ils arrivent à traverser le fil, on pourra les laisser vivre. Donc, tout à fait comme des gladiateurs. Donc, un clown évoluait sur l'espace. Alors, en même temps, donc, le clown en bas. Que fait ce clown? Il grimpe sur le toit, il court, il... qu'est-ce qu'il fait exactement? Au milieu de la page 110, il mimait une panique hagarde, ainsi que le désir de rompre l'anneau du service d'ordre. Donc, il mimait la panique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il mime la panique? Ou bien que, justement, il est paniqué. Et comme il ne peut pas sortir, à chaque fois, il est renvoyé à l'intérieur et il continue à s'exprimer, mais avec son masque de clown, avec ses vêtements de clown, tout ce que fait le clown devient quelque chose de comique. Même s'il est lui-même pas du tout en train de jouer le clown. Alors, on a souvent... attirer l'attention sur cette notion de clown triste. Le clown est triste. Et souvent, on a montré des clowns qui jouent les clowns et qui jouent la tristesse. Et on a révélé que peut-être en dessous, le clown était réellement triste. Bon, c'est une sorte de stéréotype, hein, depuis longtemps, dans la littérature et dans le cinéma aussi. Alors pourquoi le clown mime une panique hagarde, ou bien pourquoi serait-il vraiment paniqué, tout en bas de la page 110, là, parce qu'il arrive de ce côté, il pirouettait, roulait, récupérait ses esprits, reprenait ses zigzags fébriles. Près du réverbère auquel aboutissait le câble, plusieurs corps étaient allongés. Donc on comprend. Sans explication, on comprend que des gens sont déjà morts. Plusieurs corps étaient allongés. Ce sont des gens qui sont déjà tombés. Le clown, par moments, trottinait jusqu'à cette morgue improvisée. Morgue, hein, si vous étiez pas sûr qu'ils sont morts, maintenant vous l'êtes. Il levait alors sa hache dans un geste de terreur et s'enfuyait, atteignait la muraille frondiste et la bravait en son langage bouffon. L'assaillait, vite désarmé et relancé en pleine lumière. Pas une seconde ne s'interrompait ce ballet grotesque qui comblait d'aise la foule. Tous les termes de la phrase sont inversés dans la syntaxe. La foule était comblée d'aise et pas une seconde ne s'interrompait ce ballet grotesque, c'est-à-dire ce ballet grotesque ne s'interrompait pas même une seconde. Bon, on est dans cette situation. Puis un roulement de caisse, page 111, hein, 8e ligne, un roulement de caisse clair prévint que la plaisanterie allait se corser. Se corser, ça veut dire devenir plus forte, hein, devenir plus dure. Et donc, à la fenêtre, on pousse un équilibriste qui refuse d'avancer. Et en bas de la page 111... un être qui n'avait rien d'un acrobate haletait, se passait la main sur la bouche, se massait l'épaule gauche, attendait la suite. Et donc c'est un oiseau qu'on a déjà vu. Page 112, son pardessus de mendiant, etc. La voix de Zagabel revient. Nous soutenons le peuple, mais nous ne soutenons pas les oiseaux. Nous ne soutenons pas les oiseaux, au sens propre. C'est pas soutenir au sens de support en anglais. Maintenant, c'est soutenir, c'est tenir. Donc, on les lâche, on les laisse tomber. On les laisse tomber vraiment dans le vide. Nous ne soutenons pas les oiseaux. D'ailleurs, si ces oiseaux étaient vraiment des oiseaux, ils pourraient s'envoler, peut-être. Malheureusement, ils ne sont pas vraiment des oiseaux. Avec nous, ils tomberont toujours sur un bec. Tomber sur un bec, c'est une expression courante qui veut dire tomber sur une difficulté. Trouver une difficulté sur laquelle on est bloqué. Donc tomber sur un bec. Avec le bec, évidemment. Eh bien, tant pis pour eux, ils ne l'ont pas volé. Ici, le double sens du verbe voler. Ne pas voler quelque chose, ça veut dire mériter. Ils ont mérité ça. Et en même temps, le verbe voler, ils ne peuvent pas voler comme des oiseaux. Et la page développe ensuite le thème de la rue dont je parlais tout à l'heure. Au milieu de la page exactement, la rue tonnait Balin Zagabel. La rue a ses bonnes vieilles méthodes populaires qui se transmettent depuis 1000 ans et qui seront valables 1000 ans encore. Grâce à nous tous, la rue ne gaspille pas son énergie en discussions oiseuses. Oiseuses, c'est-à-dire sans fondement, mais on entend aussi oiseau, un oiseau dans oiseux. Ne pas confondre avec un parlement croupion. Qu'est-ce que c'est un parlement croupion? Eh bien, d'abord, croupion, c'est une partie du corps de l'oiseau ou du poulet. Alors, si vous voyez bien l'arrière du poulet, hein, il y a une petite partie comme ça de la queue, hein, une sorte de queue, justement, minuscule, qu'on appelle le croupion. Eh bien, ce croupion, donc c'est une partie de l'oiseau. Et puis, l'expression « parlement croupion ». C'est une expression qui nous vient de l'histoire, précisément de l'histoire de l'Angleterre, au XVIIe siècle. Entre Charles Ier et Charles II, il y a eu, j'ai oublié son nom. Bon, enfin bref. Après cet homme politique, il y a eu Charles II. Et à cette époque de Charles II, il y avait un parlement qui obéissait complètement à cette sorte de dictateur. Vous voulez retrouver le nom du dictateur ?
Cromwell.
Cromwell, merci. Je cherchais homme, et à la fin du mot, donc c'était Cromwell. À Cromwell, à l'époque de Cromwell, le parlement était soumis complètement, et donc on l'avait appelé croupion, c'est-à-dire petite chose tout à fait négligeable. Le parlement croupion, expression historique du parlement à l'époque de Cromwell et d'après Cromwell jusqu'à Charles II. Donc, parlement croupion, avec le double sens ici du mot croupion. Quand il faut régler le problème des migrateurs, elle s'en charge. Migrateurs, évidemment, ce sont les immigrés, l'immigration, mais également les oiseaux migrateurs, comme tout le monde le sait. Donc voilà comment se développent ces doubles sens, et on arrive à ce qui se passe exactement, page 113. Tout le monde a sa chance, hein, c'est la cinquième ligne. Il y a des circonstances où la frousse donne des ailes, la peur donne des ailes. On dit, c'est une expression courante, hein, la peur donne des ailes, c'est-à-dire les gens qui sont timides, d'un seul coup, à cause de la peur, réussissent un exploit de courage. Bon, et en réalité, donner des ailes, c'est-à-dire pouvoir voler. Puis le funambule inexpert chavira soudain et s'écrasa 7 ou 8 mètres plus bas, donc à la suite des autres. Le clown vient justement près de ce corps disloqué, au milieu de la page 113. Il exprime son désespoir, son dégoût, mais encore une fois, avec son costume de clown. Et la foule va chanter avec passion en bas de la page 113 à l'imitation de ce qu'on appelle les chansons à boire en français, qui est une des choses les plus horribles de la culture française, et peut-être pas seulement française. On chante pendant que quelqu'un boit encore. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Vous n'avez jamais vu ça dans des films? Ça, bon. Et là, ça se transforme en « Il est des vôtres, il a chu à terre comme les autres. » Ah, donc une parodie de cette chanson à boire, de copains qui boivent ensemble, hein, et qui se poussent à se saouler. Bon, pourquoi pas, c'est pas un crime non plus, mais c'est transformé en quelque chose de tout à fait monstrueux. Et les expressions continuent. Après la chute de cet homme, en bas de la page 113, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout le monde connaît l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça veut dire que si on veut parvenir à quelque chose d'assez difficile, eh bien peut-être il faut accepter qu'il y ait quelques conséquences, quelques accidents, ce qu'on appelle les collateral damage aujourd'hui dans la guerre. C'est-à-dire que si on veut vaincre l'ennemi, il faut accepter qu'il y a quand même quelques victimes civiles, malheureusement. Hein, donc on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est la même idée. Voilà, le narrateur va résumer maintenant à la page 114. Nous dûmes assister à plusieurs martyrs successifs. Hein, vraiment des martyrs, hein, puisqu'ils sont condamnés pour leur appartenance au groupe, entre guillemets, des oiseaux, selon les frondistes. Alors, toute la page développe ce thème avec les personnes qui restent sur les marches. Enfin, à la page 115. Puis les lampes, alors c'est la sixième ligne, puis les lampes qui arrosaient la piste de cirque s'éteignirent et les projecteurs de DCA, DCA c'est la défense anti-aérienne, hein, sont les projecteurs très très puissants pour tirer sur des avions. Les projecteurs de la DCA furent braqués sur la partie centrale des escaliers, sur nous. Notre groupe devint une nouvelle cible. Alors, il y a plusieurs peut-être, hein, c'est vraiment l'hésitation, peut-être on aurait dû essayer de partir, peut-être on aurait dû, bon, peu importe, de toute façon, que va-t-il se passer? On arrive à la page 116, dernières expressions d'oiseaux, qui sont tout en bas de la page 115, pardon, dans le carnet de Balint Zagebel, hein, ces plaisanteries éventées, éculées, cent fois réchauffées sur les dindons de la farce, encore une expression, d'oiseaux, les poules mouillées, vous connaissez sans doute, et deux lignes plus bas, peut-être la plus belle et même un peu poétique, hein, le sexe des mésanges. Tout le monde connaît les mésanges, ce sont des petits oiseaux, mais le sexe des mésanges, ça ne nous intéresse pas beaucoup. En revanche, ce qui a beaucoup, beaucoup intéressé les gens depuis des siècles, c'est le sexe des anges. Eh oui, les anges sont-ils masculins, féminins, des deux sexes, d'aucun sexe, hein, c'est une sorte de conversation religieuse. Et de la part de Zagebel, cette conversation sur le sexe des anges est considérée comme ridicule. Ça n'a aucun sens de discuter sur le sexe des anges. Bon, on en arrive là. Nous restions inertes, privés d'initiative, figés en face de l'océan des insultes et du crime, et cela fut ressenti par les plus durs comme une expression concertée de défi. C'est pourquoi deux grenades furent lancées sur nous. La première explosa dans notre dos, car elle avait été envoyée depuis l'atrium. La détonation dispersa en une seconde tout ce qui m'entourait. Le souffle m'assourdit et je vis, dans une paradoxale absence de bruit, des lambeaux sombres qui flottaient à hauteur d'homme. des lambeaux de corps. Je fus aussitôt renversé et piétiné par je ne sais qui. Dojna n'était plus à mon bras. Je glissais en avant. Quelqu'un me marcha de nouveau sur une jambe, puis sur le cou. Je perdais du sang. Il me semblait que nous étions nombreux à être couchés et à saigner sur les marches. Mais en fait, la plupart n'avaient pas été blessés et s'étaient égayés en hurlant. Le service d'ordre ne s'entr'ouvrait pas pour les laisser partir. Ma vue se brouillait. La deuxième grenade rebondit sur les marches et arriva au pied de Dojna. Plusieurs personnes à ce moment trébuchaient ou rampaient à côté d'elle. Chaki Esterkan venait de tomber et reprenait son équilibre en s'accrochant au mantelet couleur bronze de Dojna. Le mantelet était taché de sang. Dojna se baissa et ramassa la grenade. Elle la tenait dans sa main. Il y avait du monde partout autour d'elle et les frondistes semblaient trop loin. Elle hésitait à renvoyer l'objet sur les uniformes. Elle hésitait, Dojna. Dojna Majid Jamalian. À sa mémoire, je dédie ce texte. Donc, on n'a pas besoin d'explication sur le déroulement des événements et on peut finir donc sur cette explosion finale qui fait disparaître en même temps les deux femmes, Dojna et l'altiste Chaki Esterkan, qui étaient juste à côté d'elle. Et donc, elles sont toutes les deux, il y a d'autres personnes autour, et les frondistes sont trop loin, et elle hésite à renvoyer sa grenade. Cette hésitation, cette dernière hésitation, c'est, je crois, la dernière preuve que Dojna reste qui elle était, c'est-à-dire une personne qui refuse la violence. Parce que renvoyer la grenade, c'est rendre la violence, et donc c'est entrer dans le jeu, même si elle serait morte juste après. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, c'est tragique, c'est horrible, et comme on disait tout à l'heure, c'est une leçon qui ne nous fait pas plaisir. Personne, je crois, peut dire ça. Il y a des aspects comiques, humoristiques. L'écriture elle-même contient beaucoup d'humour, et c'est ce que Volodine appelle l'humour noir. Cet humour noir qui est une des inventions ou une des choses développées par le dadaïsme et le surréalisme dans les années 20-30 du XXe siècle. Bon, pourquoi il y a une sorte d'héritage surréaliste chez Volodine? Voilà, on arrive, excusez-moi, à 11h56.